le grand magazine du samedi. RVVS 96.2.
13h, 14h, reportage VIP.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur RVVS 96.2 FM. C'est l'émission Reportage VIP, acteur local à la culture internationale, entre 13 et 14 heures sur RVVS, rvvs.fr pour la partie online, partie streaming, la partie radio, internet, et sur la partie FM, 96.2 FM. Aujourd'hui, Reportage VIP, acteur local à la culture internationale, vous propose une émission avec l'association du Grand Raid de la Réunion. Cette fameuse organisation qui œuvre pour accueillir des trailers du monde entier pour notamment l'une des épreuves phares de l'île et à travers le monde du sport. La fameuse Diagonale des Fous. Nous aurons également une chronique image des jeux autour d'un perchiste hors norme qui a réalisé les JO de Moscou en 1980. Et une auto, une histoire avec le Peugeot Partenaire. Il est 13h, passé de 6 minutes sur toute la France, mais pas partout dans le monde, puisque à La Réunion, à La Possession, il est 16h, passé de 6 minutes. Tout de suite, la chronique Image des Jeux sur RVVS. A long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Bonjour, l'histoire des Jeux aujourd'hui, nous sommes penchés sur les JO de Moscou en 1980 avec Vladislav Kovačević, médaillé d'or du saut à la perche. C'était une victoire qui est restée dans l'histoire de la démocratie polonaise de ce sportif face à la domination soviétique. Né en Lituanie en 1952 de parents polonais, rapatrié, il a remporté les championnats de Pologne en 1974 avant d'établir un record en 1975, un record européen. Un record de 5,60 m qu'il a amélioré à 3 reprises par la suite avant d'être dépassé ensuite par les Français Thierry Vigneron et Philippe Ouvion. Il participe aux JO de Montréal en 1976, mais va performer en 1980 à Moscou avec une médaille d'or pour un saut de 5,78 mètres de haut en lutte devant le public de son adversaire russe Konstantin Volkov. Il poursuivra sa performance par un bras d'honneur mémorable face à l'hostilité du public russe. Il fut distingué sportif de l'année en 1980. Il enseignera en Allemagne de l'Ouest et sera titré 3 fois champion de saut en hauteur dans ce pays. Il reviendra ensuite en Pologne comme entraîneur lorsque le pays fera son retour à la démocratie. Sa dernière participation au JO était à Séoul en 1988, mais là, il n'a pas amélioré de record. Il sera engagé dans le parti de la coalition européenne et même élu politique dans ce cadre de la démocratie polonaise par rapport au contexte et par rapport à l'Europe. Like a shot without a warning.
RVVS. Dans l'Ouest parisien, vous écoutez RVVS.
Bonjour Florent pour Reportage VIP. Aujourd'hui avec Pierre pour une interview autour du Grand Raid de La Réunion. Bonjour Pierre, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien, très bien. Avec un petit peu de vent aujourd'hui à La Réunion, mais ça va très bien, merci.
Quand et comment avez-vous intégré l'association du Grand Raid ?
Alors, l'association du Grand Raid, moi, je l'ai intégrée en 1996, en devenant bénévole du Grand Raid. Et je suis devenu, au fil du temps, le responsable du PC Course du Grand Raid. Et puis, depuis le 3 juillet 2021, j'en suis le président.
Justement, qu'avez-vous appris à travers vos différentes missions dans le cadre du Grand Raid ?
Alors, qu'est-ce que j'ai appris ? Ah ben, j'ai appris que c'était une course phénoménale, que c'était une... Alors qu'il y a, trois façons de l'appréhender, en fait. Hein. C'est le dépassement de soi pour les uns, c'est l'aventure humaine pour l'autre, et puis des chronos pour les ceux qui veulent devenir champions ou qui sont champions. Il y a un passage obligé dans un tour qui n'est pas un tour officiel, mais qui est quand même reconnu au niveau international.
Tout à fait. Est-ce que c'est possible de revenir ensemble sur la genèse du Grand Raid qui commence en 1989 avec la marche des cimes ?
Oui, alors effectivement, c'est une histoire qui date depuis 30 ans, qui a commencé par un rassemblement de gens passionnés de la montagne qui voulaient faire des promenades et qui, au fur et à mesure, ont créé le Grand Raid, en fait. Ça a pris des noms, la marche des cimes... La tracée de la pleine lune, la grande traversée, etc. Ça a eu des noms différents et c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui après bien des péripéties.
En 94, justement, ça prend le nom du Grand Raid. Et le Grand Raid de La Réunion, c'est actuellement 4 épreuves qui sont arrivées progressivement.
Voilà, tout à fait. Alors, il y a 4 épreuves dont l'épreuve la plus ancienne est la Diagonale des Fous. La Diagonale des Fous, ensuite on a eu le Trail de Bourbon, on a eu la Mascareigne et aujourd'hui on a une petite dernière qui est le Zambocal Trail, qui est un trail par étape, puisque c'est une trail où il y a 4 équipes qui se font le passage de témoins et à travers l'île.
Le semi-raid qui devient le Trail de Bourbon. Commencé en 2000, par exemple.
Oui, tout à fait. Alors, donc, il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution au fur et à mesure. On s'est aperçu que, bon, on faisait... Il y a le plein sur un premier type de course, qui était donc la DDF. Après, bon, on a voulu faire un petit peu moins pour permettre à monsieur tout le monde d'arriver. Et puis, on en a fait une de plus rapide. Et puis, on est arrivé aux embrocales. En fait, c'est une évolution qui s'est faite d'abord... naturellement et ensuite pas pour se mettre en osmose avec les autres courses qui se déroulent à l'étranger, enfin à l'étranger et puis en métropole. Il y a eu une décision entre Robert Chicot qui était l'ancien président et puis Monsieur Poletti qui aujourd'hui est à l'UTMB. Ils ont créé la World World Tour et ils étaient à l'intérieur à cette époque-là. Et des différents personnels ont fait que aujourd'hui on fait plus partie de ce World World Tour, mais on en a gardé certaines consistances.
Et justement, l'un des derniers nés, c'est 2017 avec la Zambrocal Trail, relais avec 4 membres. Ça, c'est une épreuve où ça se matérialise sur le nombre de participants. On est plusieurs, on est solidaires. C'est à l'image du trail et c'est une suite logique, en fait. Et c'est des jolies histoires.
Alors c'est une suite logique, mais en même temps c'est celle qui nous pose le plus de problèmes non pas de coordination de l'autre, mais qui est la plus difficile à gérer parce qu'elle est intransigeante. Il suffit qu'il y ait un abandon pour que toute l'équipe soit impactée. Et ça, il y a des gens qui vont s'entraîner toute l'année pour pouvoir faire cette aventure-là, et puis au dernier moment, il n'y a plus d'équipe. Et ça, c'est un peu problématique, mais malheureusement, on a mis en place un système qui fait qu'aujourd'hui, la Zambrocal Trail reste au niveau des inscriptions celle qui nous pose un petit peu plus de problèmes parce qu'elle est très très demandée. Elle est, c'est celle où il y a le moins de coureurs. Il y a 200 équipes de 4. Et puis voilà, c'est assez intransigeant au niveau des inscriptions. Mais sinon, c'est effectivement la petite dernière, mais la petite dernière qui fonctionne bien aussi. Hein, elle fait le plein systématiquement.
C'est vrai qu'en relais, la difficulté après pour l'organisation, c'est tout le, justement la gestion des relais pour pouvoir avoir les personnes, les coureurs qui vont arriver sur le site en temps et en heure pour pouvoir prendre le relais. Ça, effectivement, c'est des prouesses qui sont réalisées par l'organisation et bravo une fois de plus parce que c'est à chaque fois des mini défis dans l'organisation.
Tout à fait. Il y a toute une organisation logistique derrière. Il y a très peu de personnes ne savent vraiment ce que c'est que le Grand Raid derrière la logistique, les ravitaillements, les bénévoles, parce que si on n'avait pas de bénévoles, hein, il y a 1800 bénévoles sur les quatre courses. S'il n'y avait pas de bénévoles, s'il n'y avait pas de partenaires, il n'y aurait pas de Grand Raid. Donc il faut être conscient de cette affaire-là aussi. C'est aussi devenu au fil du temps un événement familial, un événement que les Réunionnais se sont appropriés, avec une façon de se comporter qui est très particulière, hein, qui est un peu le reflet des gens d'ici. Et puis c'est devenu, par la force des choses, un événement qui est financier, puisqu'il rapporte quand même au département avec tout ce qui s'appelle commerce, billets d'avion, etc., un certain nombre de sous qui permettent à la Réunion d'avoir une vie économique qui n'est pas inintéressante. Alors c'est le premier événement sportif international de l'île, c'est le premier événement financier de l'île, et c'est aussi une vraie aventure humaine, parce que elle apporte pas seulement une course d'un point A à un point B, mais aussi c'est un vrai laboratoire au niveau médical, puisqu'on y fait quand même des prouesses avec des concurrents qui vont courir avec des pancréas artificiels. On fait courir des gens qui ont des jambes bioniques, enfin qui sont des jambes de génération nouvelle au niveau de la fabrication, le terme est en train de m'échapper actuellement. Bon, ils ont donc des membres qui sont artificiels mais qui sont de génération nouvelle. On a des malvoyants, on a des géoliettes. Les géoliettes, c'est les porteurs de, ce sont les gens qui sont porteurs d'handicap et qui sont portés tout le long de la course par d'autres coureurs. Donc c'est vraiment une aventure très particulière que le Grand Raid. C'est pas seulement une course d'élite ou une course de Monsieur Tout-le-Monde.
RVVS, vous écoutez RVVS 96.2.
was music. We danced to week, brought back the love. We found trust, vowed we'd never give it up. Remember when? Remember when? 30 seems so old now, looking back. Just a stepping stone to where we are, where we've been. Said we'd do it all again. Remember when? Remember when? We said when we turn gray, when the children grow up and move away, we won't be sad, we'll be glad for all the life we've had. And we'll remember when. Remember when.
RVVS 96.2.
Baby, you understand me now. Andrew, let me try the 64.
La rubrique Une auto, une histoire, eh bien, on va parler de baroudeur ou peut-être d'utilitaire. C'est le Peugeot Partner qui répond à plusieurs activités, plusieurs sortes de consommateurs. On parlera de voitures multifonctions depuis 1996. C'est une première génération de la Peugeot Partner qui souligne dans la durée l'intérêt posté au ludospace. C'est une catégorie de véhicules dont la fin s'est progressivement arrêtée en France en 2008, puis dans d'autres pays d'Europe en 2013, mais qui se poursuit en Amérique latine. Ils viennent aussi remplacer les fourgonnettes qu'on a connues auparavant, utilitaires légers, comme dans le groupe PSA, sous le nom de Partner chez Peugeot et Berlingo chez Citroën. La plateforme vient de la Peugeot Citroën Saxo, de la Citroën Saxo et de la Peugeot 106, remplaçant la C15, on remonte déjà dans le temps, C15 Citroën camionnette, conçue, elle, sous la base de la Visa et la 205 chez Peugeot. Le baroudeur, dans sa forme, est aussi plébiscité par les jeunes, les familles, les seniors, ayant pour goût la campagne, la nature, la randonnée, pour aller à la pêche ou à la chasse. C'est un petit van qui est recherché aussi, même pour le camping, avec son coffre, ses tablettes arrière, qui permettent aux enfants de vivre un espace à vivre, on pourrait dire. C'est pas la remarque de PSA, mais de son concurrent. Ça permet aux enfants d'utiliser un petit peu ce temps de route pour des choses plus ludiques, c'est pour ça qu'on parle de ludospace, et même déjeuner à l'intérieur, ce que j'ai fait moi dans les embouteillages à l'époque, dans la rue de Rivoli, avant qu'elle ne soit fermée au public. On a le temps de déjeuner dans la voiture, c'est là aussi en essai, je me souviens de cet essai de Partner. Voilà, une facilité que l'on trouvait intéressante dans les premiers essais réalisés d'ailleurs, parallèlement. Il y a le Kangoo chez Renault qui a aussi beaucoup plu et qui a poussé PSA à évoluer dans la gamme. Certains aménagements permettent aussi le transport de personnes handicapées, il faut le souligner, personnes en fauteuil. On peut monter directement le fauteuil depuis l'arrière du véhicule. C'est un équipement qui coûte assez cher, mais qui est utilisé par des
entreprises de services à la personne, de transport de services pour handicapés. En 1999, il apparaît aussi une porte coulissante côté droit pour favoriser le même accès à des personnes de mobilité réduite. En 2000, l'attractivité viendra avec le moteur 2 litres HDI de 90 chevaux, en plus du moteur diesel 1,9 litre de 71 chevaux. Ce sont vraiment des moteurs très fiables qui ont beaucoup plu. Donc les améliorations techniques continuent aussi par la suite avec l'aide du démarrage en côte, des radars de recul sous option pour certaines en prix d'achat. Ils viennent de nouvelles appellations comme partenaire Tipeee et Outdoor. Ça c'est le partenaire 2, deuxième génération. Un berlingot électrique est présenté au salon de Birmingham en avril 2013, puis à Genève en 2017. Entre-temps, un chocard est présenté au salon de Genève en 2015 sur la base du Citroën Berlingot XFR. C'est le Berlingot Mountain, véhicule concept assez attractif qui a donc donné naissance à une nouvelle génération de véhicules. Celle que nous avons présentée sur les réseaux sociaux est la Peugeot Ritter, la génération 3 du partenaire, élargie en productivité. Et puis, on a aussi parlé d'une version Vauxhall en Grande-Bretagne pour l'Opel Combo. C'est son nom aussi, en plus de celle du groupe PSA et maintenant Stellantis. On a aussi une collaboration avec Toyota, avec le Toyota Pro Ace City et le Fiat Diablo 3, à compter de 2018, puis en 2019 au Japon. Depuis 2022, Stellantis, donc, qui a donné suite au nouveau groupe avec le lien PSA et les usines Fiat et autres, 14 marques qui regroupent Stellantis maintenant avec le siège à Poissy dans les Yvelines, c'est la fin des versions thermiques, essence et diesel, sauf en Suisse et au Japon, ceci pour des électriques. Les Fiat Doblo seront plus produites par Togas en Turquie, mais à Vigo en Espagne. Puis en 2023, il est produit également en Grande-Bretagne. On termine cette rubrique par l'évocation d'un nouveau partenaire Ritter. C'est le Concept Car 4x4. C'était en 2018. Il avait été présenté à Genève avec la fabrication par un petit constructeur qui s'occupe uniquement de véhicules tout-terrain. C'est une signature de D'Angèle qui, dans la tradition de Peugeot, a travaillé beaucoup pour cette marque. Et donc, ce partenaire Concept Car 4x4 a été aussi une évocation intéressante pour ceux qui suivent toutes les nouveautés.
La nana venait du Connecticut. On peut dire que la vie lui mettait des supercuts.
Serveuse dans le diner à coup des pommes motel.
Elle porte un tablier qui la rend super belle. Quand le client arrive, il commande des meatballs. Le regard dirigé vers le match de baseball.
Personne ne la regarde, pourtant c'est une beauté. Une femme ordinaire que l'on a sous-côté.
Mais dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir qu'elle a le méga style. Dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir cette danseuse étoile. Qui danse? Scénariste. Ça break, ça danse, on est dans la street. Les groupes se forment, y'a des gars, des filles. Y'a du hard rock, y'a des défis. Et puis y'a ce mec en apesanteur. Moitié condor et moitié breaker. Un performeur, je te le jure, j'insiste. C'est un danseur unijambiste. Personne ne demande ce qu'il fait là. Ici on se fout des vuvuzela. Avec Becky, il devient gymnaste. Il gère l'espace, il est trop classe quand il danse. Il danse. Quelle que soit la tendance.
tendance. Pour eux c'est naturel, ça sonne comme une évidence. Ils dansent, quelle que soit la distance. La transe est un dialogue qui crée la correspondance. Ils dansent pour leur indépendance. Qu'importe la gouvernance, quelle que soit la présidence. Ils dansent sur champ de résistance. La danse de la pluie pour amener l'abondance. Ils dansent.
Combien de temps ça prend pour préparer une édition du Grand Raid avec toutes les épreuves qu'il y a?
Alors, nous sommes 12 membres du comité et on commence dès les inscriptions. Alors, on a trois personnels dans le Grand Raid. On a deux secrétaires, une secrétaire comptable, une secrétaire qui s'occupe des inscriptions et un informaticien développeur. Ça, ce sont des permanents, ce sont les seuls qui gagnent de l'argent d'ailleurs et qui ne sont pas bénévoles. Et ensuite, on a un comité qui est composé donc de 12 personnes, dont 4 directeurs de course, un responsable de la logistique, un responsable du médical, un responsable de la sécurité. Et tout ça, ça commence dès les inscriptions au mois de janvier. Depuis le mois de janvier jusqu'à fin octobre, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée de la course, eh bien, on travaille là-dessus. La partie administrative qui est assez importante, puisque 44 services différents territoriaux nationaux vont donner un avis sur la faisabilité ou non de la course. Ça, c'est au niveau administratif. Et ensuite, il y a des points de grand événement, de grand rassemblement. Donc là aussi, ça donne lieu à une deuxième partie administrative qui est particulière. Donc, je vous laisse imaginer ce que c'est seulement au niveau administratif. Après, il y a la partie logistique. En fonction des personnes qui vont venir, en fonction des compétiteurs, il va falloir préparer la logistique qui est la fourniture des équipements, la fourniture des aliments, la fourniture de tout ce qui va nous permettre de sécuriser les parcours. Et tout ça, ça entraîne encore plein de choses, puisque la Réunion est pour la grande partie de la Réunion aujourd'hui, est patrimoine mondial de l'humanité. On a un parc national qui est assez... je dirais pas rigide, mais qui est assez strict quant au respect de certaines zones pour protéger les espèces endémiques qu'on a. Donc je vous laisse imaginer le travail que c'est depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'octobre pour déjà tout préparer. Et ensuite, eh bien, passer 4 jours avec des compétiteurs qui vont s'éclater, pas au sens premier du terme, mais qui vont se donner le maximum d'eux-mêmes sur les sentiers.
Sur ces jours de trail, combien de bénévoles sont impliqués?
1800 bénévoles sur les 4 jours. Alors bien évidemment, c'est pas 1800 bénévoles à l'instant T, mais vous avez 24 postes de ravitaillement qui sont disséminés sur les 4 courses. Vous avez donc des gens qui vont s'impliquer pour la chrono, qui vont s'impliquer pour donner à manger, qui vont s'impliquer pour donner de l'assistance médicale, hein, puisqu'on a on est une des rares courses en métropole, enfin sur les dom-toms aussi, où on a des podologues, des kinés, des médecins, des infirmiers qui sont à poste sur certains points. Et tout ça, c'est en harmonie et géré par un PC course et un PC médical qui se trouve à l'arrivée. Et tout ça, ça demande bien évidemment beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens qui sont investis. Et on est de plus en plus on professionnalise entre guillemets nos bénévoles parce que ça devient de plus en plus pointu. La technologie a évolué bien évidemment pour le suivi des coureurs. On a des balises, on a tout un système de suivi maintenant qui fait que on est obligé de ne plus le faire en dilettante. Voilà, et les risques que ça peut engager, puisque les sentiers sont quand même des sentiers quelquefois qui sont pas dangereux dans le sens premier du terme, mais qui ne sont pas faciles, pas aisés. Et si on y va sans y être un peu préparé, on risque d'avoir de la surprise.
Et c'est aussi l'occasion de revenir ensemble sur le défi de 2021 qui a été réalisé. On voit que ça prend du temps et faire quelque chose d'extraordinaire déjà. Et en 2021, c'était 109 jours, vous avez expliqué.
Exactement. Nous avons eu 109 jours et avec une autre équipe. Alors, pour la petite histoire, je suis président du Lorraine, mais je n'ai jamais fait partie du Sérail. J'étais un bénévole. Le fonctionnement du Grand Raid, de l'association Grand Raid à l'époque, c'était une association loi 1901, c'est toujours une association loi 1901 d'ailleurs, mais qui était composée d'un comité directeur de 12 personnes, et les statuts faisaient que ces 12 personnes avec quelques adhérents étaient les mêmes qui se retrouvaient aux manettes tous les 3 ans. Par un système de fonctionnement qui n'était pas très ouvert vers l'extérieur. Donc, le fonctionnement de l'époque, moi, j'étais donc adhérent, je n'étais pas adhérent tout de suite, j'ai été bénévole, et je me suis intéressé au fonctionnement de l'association au bout d'un certain nombre d'années, mais je n'étais pas dans le comité. Il a fallu attendre 2021, que les hasards du calendrier fassent que il y a eu un nouveau changement de prévu dans les statuts pour que il y ait 4 places qui se libèrent, dont celui du président qui avait été élu au mois de février 2021, le secrétaire général et le trésorier. Résultat des courses, il y a eu un changement, puisqu'après 23 ans de même équipe et ou assimilée, les adhérents étaient un peu sur la défensive, sur l'interrogation, et puis ben, ils ont revoté. Ils ont revoté, à notre grande surprise, un changement radical de comité. Et de ce comité, ben, il y a eu il y a eu forcément une élection pour un nouveau président, puisque le président qui avait été élu au mois de février a été écarté, secrétaire général écarté, trésorier écarté. Comme il avait prévu à l'ordre du jour qu'on mette un nouveau président en place et puis un nouveau trésorier, etc., il y a eu donc un vote qui a été fait. Alors ma grande surprise, vraiment ma grande surprise, j'ai été enfin élu déjà au comité, c'était bien, et mon idée personnelle c'était de garder ma petite responsabilité du PC course. Et puis en fait, il y a eu donc il fallait un président, il y a eu quelqu'un qui s'est présenté. Les statuts demandaient à ce qu'il y ait une deuxième personne qui se présente, parce que ça se fait avec un candidat unique. Et les hasards de la vie ont fait que je me retrouve à la présidence. Alors, c'est inutile de dire que je n'avais jamais été dans le Sérail, donc dans le comité. Je me suis retrouvé élu le 3 juillet 2021. Le 5 juillet 2021, je me retrouve avec une série de démissions. Et le 12 juillet 2021, c'est une équipe renouvelée à 75% qui va devoir faire en 109 jours chrono le Grand Raid de 2021 avec les conditions Covid que tout le monde connaissait à l'époque. Alors ça a été un challenge phénoménal parce que on a mis en place un certain nombre de dispositifs qui n'existaient pas avant, 4 directeurs de course au lieu d'un, un coordonnateur, une logistique revue à la hausse, une manière de gérer l'informatique différente, enfin bref. On est reparti sur des bases totalement nouvelles et on a réussi le tour de force de rassurer les partenaires qui commençaient à être un petit peu inquiets. 3 présidents en l'espace de 6 mois, ça faisait un peu beaucoup. Et puis voilà, donc cette aventure-là a commencé en 2021. On a réussi à prouver qu'avec malgré les règles de la Covid, on pouvait faire quelque chose de correct. Deuxième challenge, ça a été donc 2022, pardon, avec les 30 ans de l'association Grand Raid. Alors là aussi, il a fallu mettre les petits plats dans les grands et faire montre qu'on était encore capable de faire quelque chose de correct aussi pour la deuxième année, avec toujours cette équipe nouvelle. Et là, bah, on attaque notre troisième édition avec, j'espère, toujours cette image qu'on va faire. On va montrer qu'on est capable de faire quelque chose avec des équipes nouvelles et que on prend bien soin d'écouter les gens. On a essayé d'aller au contact de plus en plus des personnes qui nous laissaient passer sur leur terrain, de la population, enfin bref, c'est un travail de longue haleine et c'est pas terminé quoi. Hein. C'est pas, il va falloir pas juger sur pièce tout de suite. Il y a des choses à faire. Voilà.
Est-ce que c'est possible de présenter justement les directeurs de course, 4 épreuves, 4 directeurs de course, et il y a la parité sur rôle qui est essentiel en fait pour les coureurs qui le reconnaissent parce qu'ils adorent les parcours, mais vous faites à chaque fois plein de défis pour s'adapter au parcours, pour pouvoir y passer.
Tout à fait. Alors déjà, le premier directeur de course, Thierry Chambry, C'est un garçon qui a un salarié depuis plusieurs années, qui a gagné le Grand Raid, la DDF, hein, qui a été vainqueur de la DDF. Il est guide de montagne ici à La Réunion. Il est donc directeur de la Diagonale des Fous, de celle qui est la plus ancienne et qui est la plus exigeante. Il est dans les sentiers pratiquement tous les jours, puisque de par son métier, il amène des gens dans les sentiers. Il connaît les sentiers de La Réunion par cœur. La directrice de course du TDB, c'est Christine Bénard. Christine Bénard, c'est une femme qui est connue dans le monde du trail de La Réunion, puisqu'elle a été la deuxième femme à être la plus titrée dans le domaine du trail de La Réunion, et notamment du Grand Raid. Donc c'est pas quelqu'un d'inconnu. La troisième directrice de course à l'Ascarène, c'est Franceline Chaplin, qui elle aussi est une jeune femme qui est connue dans le monde du trail et qui s'occupe donc de la Ascarène. Et enfin, nous avons un ancien qui s'appelle Nicolas Oveama, qui a accepté de prendre momentanément le Zambrocal Tour, qui est un ancien prof de gym et puis qui coache un petit peu certaines équipes, qui connaît aussi très bien les sentiers. Et qui avec cette équipe-là, on avait mis un coordonnateur qui s'appelait Jean-Pierre Lessort. Jean-Pierre Lessort qui avait fait 27 fois le Grand Raid et qui malheureusement nous a quitté l'année dernière. Un arrêt cardiaque qui a mis fin à sa grande carrière. Et voilà, ça nous a un petit peu touchés et blessés. Mais aujourd'hui, on n'a pas réussi tout à fait à le remplacer. Mais la nature veut qu'il faut absolument quelqu'un pour gérer tout ça. Et on a trouvé quelqu'un pour gérer tout ça. Voilà, vous avez là l'équipe principale qui vous donne du fil à retordre sur les sentiers.
C'est l'occasion aussi de mettre et de féliciter le travail, le sacré travail qu'il y a autour de la protection de la biodiversité. Et puis c'est toujours un partage de connaissances parce que vous connaissez et vous partagez cela aux coureurs et au plus grand nombre, aux partenaires aussi, parce que faut avoir un œil avisé sur la nature. C'est une suite logique du trail et vous la maîtrisez de superbe manière en fait.
Alors, il faut savoir que l'esprit du trailer, ce n'est pas l'esprit d'un quelqu'un qui abîme la nature et qui détruit la nature. Le trailer, il est en osmose avec la nature. Son esprit est dans la nature. Son esprit est. C'est pas seulement le sportif qui va faire un temps, un timing. C'est aussi quelqu'un qui est en osmose avec la nature. Et on peut être en osmose avec la nature que d'une seule manière, c'est en la respectant. Et en se rendant bien compte que la nature a des difficultés naturelles et qu'on vit avec. La Réunion, comme je l'ai dit tout à l'heure, est en grande partie devenue un parc national, hein, une propriété de l'humanité, parce qu'il y a des espèces endémiques qui y vivent, qu'elles soient végétales ou animales, et que pour respecter cette île qui est vieillissante et puis où il y a de plus en plus de gens qui vivent, eh bien on est obligé de prendre des habitudes, des responsabilités, du respect de l'environnement. Et ce respect de l'environnement-là, il est fait de différentes manières. On a créé, grâce au Parc National et à l'ONF, un certain nombre de dispositifs qui permet, par exemple, de secouer ses chaussures et de ne pas amener des graines qu'on transporte d'une partie de l'île à l'autre pour essayer de préserver les espèces endémiques. On essaye d'éviter, en informant les coureurs très régulièrement, de jeter des choses dans la nature, hein, les pots de bananes, les pots d'oranges, etc., etc., parce que les pots d'oranges attirent les rats attirent les chats, la population féline dans les hauts de l'île aujourd'hui est supérieure à la population humaine, un chat est capable de tuer à lui tout seul 400 oiseaux, et on a ici à La Réunion des espèces endémiques, comme le tuit-tuit, qui est un tout petit oiseau, on a le pétrel de barreau, on a le pétrel noir, on a la papangue, qui est un rapace local, et on a ça s'appelle ma mémoire est en train de me faire défaut, le paillanqueu, voilà, paillanqueu. Alors donc tous ces animaux-là, si on n'a pas envie de les voir un jour à l'état d'ossement dans un musée de l'homme, il faut les respecter. Il faut les respecter, il faut faire un petit peu de protection de cet environnement-là, et ça passe par une réaction, ne pas trop partir dans des circuits où les nidations se font. Malheureusement, on passe plus, par exemple, à la Roche-Éclite, à La Réunion, qui était un des anciens secteurs, parce que au mois d'octobre, c'est les périodes de nidation pour ces oiseaux-là, et on est obligé de faire attention. Voilà, c'est des choses de trail, c'est aussi le respect de la nature, effectivement, le respect de l'environnement.
RVVS, dans la vallée de la Seine. Vous écoutez RVVS.
Jolene, 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 Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls you in, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what it means to me. Choice of man, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I have to have this talk with you. My happiness depends on you. Whatever you decide to do, Jolene. Jolene, Jolene.
RVVS 96.2.
Et oui, vous êtes sur RVVS 96.9 FM, RVVS.fr et la web radio de Reportage VIP également. C'est l'émission Reportage VIP, acteur local à la culture internationale entre 13 et 14 heures. Et c'est l'occasion de remercier toute l'équipe du Grand Raid de la Réunion, dont Pierre et Ilop, dont Stéphane et Véronique. Merci, merci pour cet entretien qui, c'est toujours super de pouvoir vous partager des contenus comme ça qui vont apprendre en souriant, partager de la connaissance, partager des moments forts à travers un emblème de la Réunion qui est le Grand Raid. Jean-Louis, quelques enseignements pour cette émission ?
Eh bien, pour cette présentation avec le nouveau président du Grand Raid, troisième année d'organisation, moi je retiens plusieurs choses. D'abord, la réputation de ce Grand Raid, puisqu'il est l'événement le plus connu sur le plan économique, mais aussi financier, le plus important de la Réunion. Et puis toujours pareil, on s'imagine cette course autour du parc national classé donc au patrimoine mondial, et c'est quand même une chance formidable de pouvoir organiser un tel parcours sur ce parc naturel. Voilà, beaucoup d'enseignements, je pense, et une belle chose. C'est une réputation, en tout cas, de course qu'on connaît, ne serait-ce que par les images qu'on peut en voir ou les échos qu'on peut en avoir pour ceux qui y participent. Et puis, tous les spectateurs aussi.
Merci Jean-Louis, merci. Et tout de suite, c'est l'heure des rendez-vous RVVS, des rendez-vous Reportage VIP et des rendez-vous RVPB, l'association dont fait partie Reportage VIP. On va commencer par les rendez-vous Reportage VIP et c'est l'occasion de saluer toute l'équipe de l'Écotrail Paris-Île-de-France et notamment aussi Écolosport. On vous salue et c'est l'occasion aussi de saluer le Madeira International Ultra Trail, le Trail de Madère qui aura lieu durant la fin avril. L'occasion de saluer nos amis gallois avec le Snowdonia Ultra Trail. L'occasion de saluer nos amis de l'Aubrac avec la Transaubrac. Salut Étienne. On parlait de la Diagonale des Fous. Et on peut également évoquer à proximité la Diagonale des Yvelines. Côté trail, l'occasion de saluer toute l'équipe du trail des Pyramides Noires. Ça, c'est sur les fameux terrils, un trail dont on y va avec un esprit et un état d'esprit à part. Côté trail, c'est l'occasion de saluer Jean-Victor également, rencontré lors de l'Écotrail de Paris avec Jean-Philippe Allaire pour le Treg, mais également Jean-Victor, il organise le trail d'Acolet à côté d'Auxerre et le trail avec différents parcours, il aura lieu mi-août. On te salue. L'occasion de saluer Jean-Michel Fort-Vincent et toute la team New Balance. On te salue Jean-Michel. Quand on pense au trail, on pense également à François Daen, ainsi que Carline et toute l'équipe de l'Ultra Spirit. La semaine prochaine, justement, on parlait de la Diag des Yvelines et le dimanche, il y aura le Marathon de Paris. C'est l'occasion de saluer toute l'équipe côté route. Marathon de Paris sur route. La capitale sera à vous. Et quand on pense capitale, on pense également au 20 km de Bruxelles, on salue toute l'équipe. On salue l'équipe des 20 km de Paris ainsi que Nord Communication. C'est l'occasion de saluer aussi toute l'équipe de Bernascom. Côté musique, Laure et toute l'équipe du Eol Factory Festival. Et quand on parle de Mantes, on peut également penser à Flavia Coelho que nous avons eu en interview par téléphone, elle sera présente durant mai à Mantes-la-Jolie pour un concert. Et elle sera également en mai à Sartrouville, Flavia. Et clin d'œil, puisqu'on avait évoqué avec Flavia la réunion. La réunion physique de la musique, c'est également lors des festivals et l'un des grands festivals sur Paris, fin août, c'est Rock en Seine et l'occasion de saluer tous nos collègues ainsi que Euphelide et Marion. On vous salue, toute l'équipe de Rock en Seine. Maneskin, que vous avez entendu avec Jolene et Dolly Parton, eh ben, ils seront sur Rock en Seine. Côté musique, c'est l'occasion de saluer le trompettiste Ludovic Louis qui sera en concert dans les Yvelines et également partout en France. Parler de la Réunion, une chanteuse réunionnaise formidable, c'est Maya Kamati. Quand on pense aux chanteurs, on pense également à notre chanteur de cœur, notre chanteur folk, c'est Elliot Murphy. C'était son anniversaire durant le mois de mars. Elliot, happy birthday! Côté livre, c'est l'occasion de saluer toute l'équipe des Belles Lettres avec notamment le livre L'Esprit Grec. Les éditions Flammarion. Côté livre, on vous salue et c'est l'occasion d'évoquer le livre d'Anaïs Kemener, coureuse à pied et aide-soignante. C'est l'occasion de vous évoquer la sortie de ce livre. L'occasion de saluer le club d'aéromodélisme d'Ardricourt. Écoutez Radio, c'est l'occasion de saluer notre ami, notre référence, notre phare dans la nuit, avec notamment ses nocturnes sur RTL, c'est Mister George, George Lang, et l'occasion de saluer toute l'équipe de nos collègues d'Europe 1 avec Jacques Vendroux. On en parlait la semaine dernière, et ben c'est l'occasion de lui faire un petit clin d'œil, ainsi qu'à Hugo, qui connaît très bien RVVS. Jean-Louis, des rendez-vous, RVPB ?
Sur les chroniques prochaines de RVPB, et notamment un petit compte-rendu de la visite de Georges Pau-Langevin, qui est une personne qui a été ministre de l'Outre-mer, qui est actuellement adjoint au Défenseur des droits et qui est venu un petit peu prendre des idées avec la commune pour voir un petit peu quelles pourraient être les orientations vis-à-vis de la jeunesse. Et c'est surtout avec le corps enseignant et le corps de l'éducation nationale qu'on a pu voir ce qui pouvait se faire pour accompagner les jeunes dans la lutte contre la discrimination. C'est un sujet intéressant dont on reviendra. On a rencontré également le directeur technique des Jeux sur le plan écologique, des JO de 2024, qui nous a parlé des développements durables. Ça, c'était au forum organisé par Synergy Lab ce jeudi. On vous propose une interview aussi de Philippe Cantor, qui annonce la prochaine vente aux enchères de Bonheims à Monaco, dans l'ancienne villa de Karl Lagerfeld, un cadre magnifique sur le front de mer qui appartient maintenant à la société des bains de mer de Monaco. Et ensuite, eh bien, on va encore vous proposer bien des rubriques. Notamment, je voulais aussi parler de la prochaine, qui est le décès de Jean-Jacques Rey, qui était le créateur en 1997 du Quatrel Trophy, qui, contrairement à ce que vous pouvez croire, n'avait pas lieu qu'au Maroc, mais avait été jusqu'au Mali. Et avant, il avait travaillé aussi sur le trophée Rose des Sables, un Dakar, Biarritz-Dakar, plusieurs organisations dans le cadre de son organisation Desert Tour. Et c'est un personnage intéressant et on adresse toutes nos condoléances à sa fille Géraldine et son fils Franck, ainsi qu'à son épouse.
Merci Jean-Louis, merci. Et tout de suite, c'est l'heure des rendez-vous RVVS, les rendez-vous RVVS avec le lundi Killer on the Loose à partir de 21h. La culture métal à l'honneur. Le mardi, 21h, deuxième mardi de chaque mois, Classique et moi avec Béatrice. Le mercredi, 19h, voyage en océan Indien avec Jeff. Le jeudi, 20h, troisième jeudi de chaque mois, c'est République Rock. 21h, deuxième jeudi de chaque mois, la pop culture à l'honneur avec Zone 52. Le vendredi, 17h, Haïti Chérie avec Rosie. Samedi, 10h, Italioscopie, la culture italienne. Et le dimanche, Trait d'Union, 13h, l'Afrique en Peul et en français. Allez, ciao bye bye, c'était l'émission Reportage VIP, acteur local à la culture internationale. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. My mind to it, I know that I really can do it.
RVVS 96.2.